Radio Kapi.
À la une, célébration ce 22 mars de la Journée internationale de l'eau. Pendant ce temps, les habitants de plusieurs quartiers de Kinshasa peinent à accéder à l'eau potable. Reportage de Blaise Nongala Mayanda en début de ce journal. Bien vérifier la date de péremption des produits, surtout alimentaires, que l'on achète, quels que soient les endroits où vous faites vos achats. Certains produits périmés se retrouvent par mégarde ou par appât du gain sur des rayons des alimentations ou supermarchés. Témoignage à source de quelqu'un qui en a payé le frais à Kinshasa. Notre invité, le paramédical Dieudonné Malobo. Celui-ci donne des conseils aux utilisateurs des objets numériques à faire bon usage de ces appareils et à préserver la santé grâce notamment à une bonne alimentation. À présent, les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les habitants de plusieurs quartiers de Kinshasa peinent à accéder à l'eau potable. Pour s'en rendre compte, Radio Kapi a sillonné la ville en cette journée internationale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année. Certains Kinois affirment recourir au forage pour s'approvisionner en eau. De son côté, le gouvernement congolais dit multiplier les actions pour faciliter l'accès à l'eau potable à travers le pays. C'est un reportage signé Blaise Nongala Mayanda.
L'eau potable reste encore une denrée rare dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Les habitants se plaignent de cette situation dans un pays qui pourtant dispose de 52% des réserves d'eau douce du continent africain selon les chiffres du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngaliema, une femme interrogée avoue recourir au forage aménagé pour couvrir les besoins de sa famille en eau potable.
On recourt à l'eau de forage, c'est pas gratuit. On achète, il faut dépenser au moins par jour 20 000 francs congolais. Ici, la régie des eaux n'existe pas.
Pour sa part, le ministre d'État en charge du plan assure que le gouvernement mène plusieurs initiatives pour garantir un accès équitable et durable à cette boisson naturelle. Guylaine Niembo.
Des actions prioritaires ont été engagées. Le renforcement de la coordination multisectorielle à travers le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, l'amélioration de la résilience des systèmes d'approvisionnement en eau, la protection et la réhabilitation des infrastructures endommagées.
L'État congolais ambitionne par ailleurs offrir un accès à l'eau potable à 12 millions de personnes supplémentaires.
Campagne agricole 2025-2026, l'université de Kindu au Maniema bénéficie des semences pour la culture pérenne du café Robusta. Ce projet vise à relancer l'agriculture pérenne. Il est exécuté par le ministère provincial et l'inspection provinciale de l'agriculture et sécurité alimentaire via la faculté de l'agronomie et environnement de cette université. Florence Kizalunga nous en dit plus.
À travers ces projets, le gouvernement central veut relancer l'économie de toute la province du Maniema. Ingénieur Matondo Muyombo John est le chef du site pilote de l'INIKI. Il nous présente la quantité de cet appui du gouvernement.
Nous avons reçu 125 kg de semences de café Robusta. Et en dehors de ça, nous avons encore reçu 55 kg de sachets polyéthylène. Nous attendons avoir une affaire de 12 000 plantules de café Robusta. Et là, c'est justement pour booster l'économie de la province du Maniema.
Le recteur intérimaire félicite le gouvernement pour cette marque de confiance et promet de produire des résultats. Professeur Casimir Ngumbi Kitete.
Nous ne pouvons que remercier le gouvernement central, président de la République, le ministre Mwindo Nzangi Butondo. Ce fait concrétise donc les promesses qu'il nous a faites et nous sommes extrêmement contents. Nous ne pouvons pas décevoir les autorités au niveau national comme au niveau provincial.
Pour sa part, l'inspecteur provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire Ramazani Radjabo demande à la population de s'approprier ces projets.
En tout cas, c'est avec les cultures pérennes que nous allons relancer notre économie dans la province du Maniema. J'ai dit aux agriculteurs de s'approprier de ces projets.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le droit et l'autonomisation des femmes et filles pour la résilience climatique. Ce thème a fait l'objet d'une conférence scientifique hier samedi à l'université chrétienne bilingue du Congo dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Une centaine de jeunes ont pris part à cette rencontre organisée par Kwetu Nature en collaboration avec l'ONG Hands for Help. Une activité qui encourage l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre les réchauffements climatiques et la protection de l'environnement. L'un des participants, Enoch Siaï Komia Kambale, insiste sur le rôle majeur que doivent jouer les femmes et les filles dans la préservation de la nature. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Il est conseillé à toutes les femmes d'être au cœur de l'action, c'est-à-dire adopter les comportements de manière à favoriser la biodiversité et effectivement protéger la nature. Parce que c'est ce qui était l'objectif de la conférence, sensibiliser les femmes à la gestion de l'environnement, à la gestion efficiente aussi des déchets. Chose que nous déplorons souvent de la communauté. Pourtant, la femme est au cœur de la dégradation de la nature à grande partie parce que c'est elle qui fait les ménages, c'est elle qui fait presque tout. Et donc, elle doit se mettre au cœur de l'action pour sensibiliser d'autres femmes à pouvoir gérer cette mère nature et effectivement poser les premières actions déjà parce que nous ne devrions pas rester dans la fiction. On devrait par contre être sur terrain, manifester ces comportements-là qu'on a acquis de par certaines formations. Surtout ici, quand bien même qu'il s'agit de la femme, et les hommes aussi ont leur part de responsabilité, accompagner les femmes et adopter les mêmes comportements que les femmes auront déjà adoptés.
Par ailleurs, les organisateurs estiment que cette initiative contribuera à renforcer l'implication communautaire dans les actions de protection de l'environnement, particulièrement en associant davantage les jeunes, les femmes et les filles dans les réponses locales au changement climatique. À Kinshasa, la fréquentation des supermarchés est devenue une habitude quotidienne pour plusieurs ménages à la recherche des produits de qualité et d'un certain gage de sécurité alimentaire. Pourtant, derrière les rayons bien organisés, les emballages attrayants, se cache parfois une réalité inquiétante, la présence des produits périmés disponibles à la vente. Ce phénomène, souvent ignoré ou sous-estimé, constitue pourtant une menace réelle pour la santé publique. La consommation des produits alimentaires dont la date de péremption est dépassée peut entraîner des intoxications alimentaires, des infections bactériennes graves, des troubles digestifs, voire des complications plus sévères chez les enfants, les personnes âgées ou les individus dont le système immunitaire est fragile. Hier samedi, un client l'a appris à ses dépens après avoir acheté un jus périmé au supermarché GG Mart Kinmazière. Témoignage.
Ce matin, je suis arrivé à GG Mart Kinmazière en voulant payer quelque chose à mettre sous la dent. J'ai pris du jus déjà expiré. En voulant goûter à ça, j'ai senti que le goût était amer. Et automatiquement, je suis rentré au shop pour faire une réclamation. Et chose grave, il m'appelle dans un bureau me proposant une corruption de $50 afin que je puisse me taire. Je ne puisse pas faire du bruit ou parler. Je leur ai dit non, je suis malade, j'ai trop mal au ventre et puis la démangeaison. Si vous voulez d'abord m'amener à l'hôpital pour, accepter de prendre $50 et tenir compte que ce sont des Congolais qui ont étalé, ça sont tes frères. Si vous ne le faites pas, avec risque que tes frères puissent être renvoyés du boulot. Alors, là où je suis, ça fera pratiquement 2 heures du temps que je suis là, en train d'attendre qu'il puisse trouver quand même une solution à mon égard.
Contacté par Radio Capi, l'avocat conseil de l'entreprise GG Mart, Maître Guy Motello, n'a pas souhaité réagir par rapport à cette situation. Sous un autre chapitre, depuis plusieurs mois, les retards des paiements des salaires des fonctionnaires, mais aussi les difficultés rencontrées par certains prestataires de services publics pour être payés à temps, ainsi que les pressions exercées sur les finances publiques, ont relancé les débats sur la gestion de celles-ci. Pour de nombreux observateurs, le problème n'est pas seulement politique, mais plutôt technique. Il faut, selon eux, un gestionnaire capable de maîtriser les finances publiques, de garantir les paiements et de restaurer la crédibilité financière de l'État. Cette situation ne favorise pas la vie sociale dans plusieurs ménages des fonctionnaires. C'est ce qu'explique Sylvain Moncata, agent au ministère de la fonction publique, au micro de Jude Mister Bilanda.
Oui, je suis fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2026, mais ça nous dépasse. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu notre salaire du mois de février. C'est la première fois que ça arrive. Même les ministres qui sont passés, même à l'époque de Nicolas Cazaï, ces choses, c'est la première fois que, comme je peux dire, c'est la première fois que ça se passe. Donc, on ne comprend pas, on nous pose des questions pour savoir c'est quoi les problèmes. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi, on n'a pas encore touché notre salaire du mois de février. Donc voilà, on ne comprend pas, on se pose des questions pour savoir si c'est quoi les problèmes.
Et puis les droits internationaux humanitaires, ses principes, ses domaines d'application, ainsi que la notion de sécurité alimentaire. Ce thème est au centre d'un atelier des 3 jours, organisé au profit des personnes vivant avec handicap de la ville et du territoire de Béni. Initiée par Appel de Genève, cette formation vise à renforcer leurs capacités sur les normes et principes humanitaires applicables en période de conflit. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Ils étaient une cinquantaine de représentants des personnes vivant avec handicap venus de la ville et du territoire de Béni à prendre part à cet atelier. Pendant 3 jours, les participants ont été outillés sur les règles essentielles du droit international humanitaire, notamment la protection des civils, les normes à respecter lors des conflits armés et les mécanismes d'engagement humanitaire. Jires Mouvouti, membre de l'organisation Fraternité chrétienne des malades et handicapés, revient sur l'importance de cet atelier.
L'objectif de l'appel de Genève est renforcer la compréhension opérationnelle des normes humanitaires en période de la crise. Spécifiquement, cet atelier vise à clarifier les responsabilités, maîtriser les piliers et surtout analyser les mécanismes d'engagement. Ma recommandation est que cette méthode de l'étude des cas pour rendre cet atelier dynamique et concret. Néanmoins, nous devons mettre en pratique ce que Genève Accord utilise comme méthodologie.
Pour rappel, Appel de Genève est une organisation humanitaire internationale qui travaille au renforcement du respect des normes et principes humanitaires par les groupes armés et les autorités. C'est donc le but d'améliorer la protection des populations civiles en contexte de conflit. Béni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Quel est le rôle et l'importance du dialogue civil et étatique dans l'espace civique pour la promotion des valeurs démocratiques? Ce thème a été au centre des discussions d'un forum organisé vendredi dernier en Boujimaï par le réseau des radios associatives et télévisions de proximité du Kassai oriental, Ratepoka. Que retenir de cette rencontre, Esther Ndalafina?
Au cours de ce forum, Charles Kamanga, ministre provincial du Plan, a indiqué que le dialogue renforce le contrat social, la légitimité et la confiance mutuelle. Les étudiants et autres acteurs de la société civile présents à ce forum ont apprécié l'organisation de ces assises. Explication de Bénédicte Tendeshi de IFES Leadership Club.
J'entendais parler de la société civile, mais je ne savais pas vraiment sa vocation. Il a fait voir que la société civile est comme un pont entre la population et l'État. La société civile doit aussi accompagner les actions de développement posées par l'État.
Pour Myriam Mukundi du Conseil urbain de la jeunesse, ce forum lui a permis de mieux connaître le rôle de la société civile.
On nous a parlé sur la société civile, les rôles que la société civile a, le devoir et les obligations, les défis auxquels il fait face.
Nadège Kankolongo a retenu l'aspect collaboration entre la société civile et le gouvernement.
Nous devons être là, nous devons nous unir tous ensemble, travailler afin d'apporter cette innovation-là, ces changements-là.
Signalons que les participants demandent aux organisateurs de multiplier ce genre d'activités. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
L'écrivaine et opératrice culturelle Myoto Lioyo partage sa vision sur l'importance de la culture et prône sa valorisation dans son essai intitulé « La culture sauve les peuples ». Ce livre de 246 pages est préfacé par la première ministre de surcroît marraine du dit ouvrage. C'est bien la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka qui a dirigé la cérémonie de baptême de cet ouvrage hier samedi à Kinshasa, en présence de quelques membres du gouvernement et des acteurs majeurs de divers domaines. Myoto Lioyo estime que la culture sauve effectivement les peuples à travers le monde et il faut la rendre plus accessible pour servir un plus grand nombre. Elle en parle au micro de Jean-Marc Matouaki.
Déjà, la culture sauve le peuple parce que elle pousse les uns et les autres à chercher leur identité, à comprendre qui ils sont, à comprendre d'où ils viennent. Nous sommes au 21e siècle où on a tendance à se définir par rapport à des symboles, des critères qui ne font pas partie de notre monde, qui sont des critères imposés soit par les réseaux sociaux, soit par des connexions internationales. Or, la culture sauve les peuples. Déjà, il faut que nous-mêmes nous sachions qui nous sommes pour que demain nous puissions mieux aborder les problématiques de notre pays. On devrait rendre la culture plus accessible à la majorité de notre nation, parce que la culture, normalement, ce n'est pas un luxe. La culture, c'est le socle même de notre nation.
Actualité internationale.
Au Soudan, une attaque contre un hôpital situé dans une zone contrôlée par les paramilitaires dans l'est du Darfour a fait au moins 64 morts, dont 13 enfants, selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a appelé à stopper le conflit meurtrier dans le pays. L'attaque survenue vendredi 20 mars dernier a visé l'hôpital universitaire d'El Dayen, le principal établissement de santé de la capitale du Darfour Est.
L'invité.
L'invité de ce journal est le paramédical Dedonné Malobo. Celui-ci donne des conseils aux utilisateurs des objets numériques pour faire bon usage de ces appareils et à préserver leur santé grâce notamment à une bonne alimentation. Dedonné Malobo s'entretient avec Florence Kizalunga.
Dedonné Malobo, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'est-ce qu'on appelle maladie métabolique ?
Les maladies métaboliques sont des maladies qui sont liées au dysfonctionnement des cellules. C'est-à-dire que vous voyez, les cellules ont un certain équilibre de fonctionnement à l'interne. Mais lorsque ces cellules perdent cet équilibre-là, ramènent les déséquilibres automatiquement, voilà, on parle de problèmes métaboliques.
Quelles sont ces maladies ?
On parle de diabète aujourd'hui, par exemple, le diabète de type 2. On parle de problèmes d'hypertension au quotidien. On parle de problèmes de cancer. C'est aussi un problème lié au dysfonctionnement cellulaire. On parle aussi de problèmes hormonaux. Ce sont des problèmes qui sont liés aussi au dysfonctionnement des cellules. Donc, c'est capital qu'on comprenne ce genre de choses.
Alors, qu'est-ce qui est à la base ou bien la cause de ces maladies ?
Il y a différentes causes. Hein. Déjà, ce qu'il faut maîtriser à la base, nous avons 4 à 5 causes qui sont à la base. Aujourd'hui, si vous constatez, tout ce que nous mangeons déjà à la base est pollué. Le stress oxydatif, c'est aussi l'une des causes. Il y a la pollution environnementale. Cette pollution peut venir à travers les gaz à effet de serre. Nous vivons dans des milieux, par exemple, il y a beaucoup de minéraux qui sont exploités. Parfois, il y a de diffusion dans l'atmosphère ou l'environnement. Beaucoup des effets des métaux lourds qui sont diffusés à travers l'exploitation des minéraux ou des minéraux. Il s'est fait aussi qu'il y a la pollution aux irradiations. Vous avez les téléphones aujourd'hui, Wi-Fi, ordinateur, bref, tous les gadgets qui fonctionnent avec les ondes électromagnétiques artificielles peuvent venir avec des problèmes qui sont liés au dysfonctionnement cellulaire. Nous avons au final la qualité de sommeil. Beaucoup de gens dorment plus bien aujourd'hui à travers le fait qu'ils ont transformé leur milieu de sommeil en milieu qui est un milieu digital. Et donc les téléphones au chevet des lits, les ordinateurs branchés, on dort avec tous ces gadgets qui nous entourent. Et si on ne fait pas très attention, on peut se retrouver va développer ces problèmes dont on est en train de parler, les problèmes métaboliques.
Alors aujourd'hui dans votre conférence, vous avez pu montrer au public qu'avec le téléphone, il y a 1000 probabilités de développer des maladies même sexuelles. Comment est-ce que cela peut arriver et à quel moment ?
Bon, en passant, beaucoup d'hommes mettent le téléphone dans les poches. Hein. Actuellement, c'est la culture. Si vous croisez 10 hommes sur la rue en train de marcher, déjà autour de 5, 6, 7, 8, ont le téléphone dans les poches. Le téléphone, c'est un émetteur et un récepteur. Ils émettent quoi ? Les radiations. Mais ces radiations ne pardonnent pas. Lorsque vous mettez dans vos poches, ça diffuse. Quand il y a diffusion des rayonnements électromagnétiques sur la zone des testicules, la zone sexuelle, ça vient avec des effets, des dysfonctionnements sexuels. Et on a des gens qui se plaignent de problèmes de, comment dirais-je, faiblesse sexuelle et beaucoup d'autres problèmes.
Bon, les téléphones dans les poches, ça provoque des problèmes de faiblesse sexuelle, mais à la main, ça n'a pas des conséquences.
Il y a toujours des conséquences. La diffusion continue à se faire. Les rayonnements ne pardonnent pas. Les rayonnements diffusent. Si vous avez un wifi dans votre maison, c'est pas le fait qu'il soit à la maison qui ne sort pas. Le wifi peut être à la maison, il traverse les murs et vous l'avez à dehors, vous pouvez l'avoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en passant, il faut avoir un usage responsable de ces gadgets qui nous entourent.
Laissez-moi m'éterniser sur les téléphones parce qu'aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui utilise. Les mettre dans des poches, c'est un problème. À la main, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faudra ? Comment faut-il prendre son téléphone ?
Bon, est-il que soit vous le mettez dans votre sac, mais vous n'êtes pas toujours épargné, mais au moins quand même la diffusion sera un tout petit peu réduite. Soit lorsque vous causez, évitez de le placer à votre oreille trop longtemps, ça peut vous ramener des problèmes de tumeurs, de cerveau, des gliomes, beaucoup d'autres réalités sur le plan sanitaire. Soit vous devez aussi faire un effort de l'éloigner le plus possible de votre corps. C'est très très important. Mettez ça dans votre sac, vous dormez, éloignez-vous de ça. Vous causez, mettez par exemple la fonction haut-parleur. Ça va vous éviter de ne pas ramener ces agents de radiation sur vous. Évitez de rester tard sur le téléphone lorsqu'il fait par exemple tard. Parce que les écrans de téléphone avec la lumière qu'il y a, parfois ça vient avec des diffusions très bizarres et ça empêche la sécrétion de certaines hormones qui peuvent vous endormir et puis créer des troubles de sommeil.
Alors avec la crème intellectuelle aujourd'hui, c'est tous les étudiants. Qu'est-ce que ces étudiants doivent faire pour éviter les maladies métaboliques ?
Actuellement, c'est une question de conscience. La santé, c'est une affaire personnelle d'abord. Ce n'est pas d'abord l'affaire de votre médecin à dire, c'est d'abord vous-même. Malheureusement, nous ignorons notre santé jusqu'au jour où nous tombons malades, c'est alors qu'on en prend conscience. C'est bien, mais Ce n'est pas du tout bien. Ça devait être quelque chose qu'on devait surveiller à tout moment, au quotidien. Parce que la santé, c'est ce que vous mangez. La santé, c'est comment vous gérez vos émotions. La santé, c'est la qualité de votre environnement. La santé, c'est la qualité de votre sommeil. La santé, c'est aussi les gadgets que vous utilisez autour de vous. Vous devez connaître qu'est-ce que vous mangez. Il faut manger intentionnel, manger fonctionnel. En lieu place de manger, comment dirais-je, accidentel. Il faut éviter de manger comme si c'était un accident. C'est parce qu'on a déposé à table que je viens manger. Non. On doit manger parce que je sais que je mange. Voilà ce que ça m'apporte sur le corps. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, on doit avoir un programme sanitaire.
Dieudonné Malobo, je vous remercie.
Merci, madame.
Fin de ce journal qui a été supervisé par Jude Mister Bilanda. Jean-Claude Siala a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.